un peu plus tard dans la discussion. Alors, les Américains s'apprêtent à voter cet automne dans une course présidentielle qui s'annonce très serrée. Comme la plupart des Américains, les membres de la diaspora africaine sont confrontés à un choix difficile lorsqu'il s'agit de décider de la direction que doit prendre le pays. Jeff Swicord s'est entretenu avec un partisan de Donald Trump et une électrice qui soutient Kamala Harris. Le récit est de John Linden.
Laban Seyoum est un travailleur acharné. Il passe de longues heures à la tête d'une petite entreprise de camionnage qui possède 3 camions longs courriers. Il est arrivé aux États-Unis avec sa famille, fuyant la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée en 2000. Laban se considère comme un conservateur fiscal et social et est un fervent partisan de l'ancien président Donald Trump.
Quand le président Trump était au pouvoir, les affaires étaient incroyables. Vous savez, le marché était excellent, les opportunités d'emploi étaient excellentes et les gens étaient optimistes.
Les prix mondiaux du pétrole sont extrêmement volatiles et déterminés par un ensemble complexe de facteurs. Laban soutient que l'ancien président Trump a la réponse.
Trump nous a montré la voie à suivre. Vous forez, vous forez, vous forez, vous forez, et ensuite on fait de la compétition. Vous voyez maintenant, nous n'avons plus besoin d'explorer d'autres idéologies.
Les démocrates comme Fatma Tabari voient le choix de cette élection très différemment. Elle est arrivée aux États-Unis à l'âge de 11 ans, en provenance de sa Sierra Leone natale. Après ses études de droit, elle s'est installée dans le Maryland pour poursuivre son travail de plaidoyer et de droit de l'immigration. Elle soutiendra Kamala Harris en novembre prochain.
Je pense que la vice-présidente Kamala Harris est une personne du peuple. Elle est la personne dont nous avons besoin en ce moment pour combler le fossé qui existe dans ce pays.
Elle s'inquiète de voir Trump remporter à nouveau la présidence.
J'ai peur. La peur des immigrés recommence à se manifester. La peur des Noirs et des Bruns recommence à se manifester. Et c'est difficile quand la personne au sommet dirige tout pour que les autres se sentent mal à l'aise.
Selon elle, si l'on se fie au passé, les immigrants qui suivent la procédure légale seront touchés par le projet de Trump d'expulser des millions de sans-papiers des États-Unis. Deux visions distinctes pour l'Amérique, deux choix distincts.
Voilà, donc c'était un aperçu un peu du vote de la diaspora. Pas scientifique, effectivement, mais ça nous permet un peu d'aller vers notre public ici à Washington. S'il y a peut-être quelqu'un qui voudrait s'exprimer, poser une question ou intervenir, madame, présentez-vous aussi.
Mon nom c'est Adam Ologam, je suis du Mali. Notre diaspora est divisée. Notre diaspora est profondément divisée. Donc elles veulent voter toujours pour Trump, parce qu'ils pensent que les démocrates sont des hypocrites qui ne disent pas la vérité. Mais la grande majorité fait coalition pour Kamala Harris. Et dans la salle, je pense que c'est le même climat qui s'opère ici. Il y a des gens qui sont pro-Trump et qui sont ceux qui sont pro-Kamala Harris. Mais les femmes en général, les femmes africaines, c'est une journaliste qui parle, donc je suis à l'écoute de mon peuple. J'écoute les gens de ma communauté, je les écoute, et ce qu'ils me disent, ce qu'ils me racontent. Ils disent que du temps de Trump, il n'y a pas eu de guerre. Quelqu'un m'a dit, tu me pousses à voter Kamala Harris. Dès que je lui avais demandé déjà de voter pour Biden. Il sait, tu me demandes de voter pour Biden, dès qu'il sera président, il y aura la guerre. Il y a eu la guerre. Il y a eu même plusieurs guerres. Alors donc, on n'arrive même pas à arrêter. Et du coup, on présente, il y a des élections qui se présentent. Il y a l'embarras du choix. Donc, ils disent, il faut aller pour Trump. Au moins, lui, il ne fera pas de guerre. Puisqu'en Afrique, on a assez de guerres. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a les terroristes. Moi, je suis du Mali. Alors donc, je laisse la parole aux autres pour ne pas leur prendre le micro.
Une minute pour chacun. Une réponse à madame.
Non, mais je crois que dans une mesure, la diaspora africaine ici, elle a l'image du continent. Et quand je voyage sur le continent, c'est le même refrain que j'ai. Mais nous, je crois que dans la diaspora, on doit pouvoir nuancer. doit pouvoir nuancer parce qu'effectivement, il y a des guerres, mais malgré les guerres, il faut voir dans quelle direction le pays, en tant que nation, doit partir. Et dans ce contexte, moi, je crois déjà qu'avec la rhétorique de Trump, et quand on regarde son dernier mandat, ce n'est pas aussi réjouissant qu'on a l'impression de le voir maintenant. Donc, dans ces conditions, il faut qu'on fasse attention et qu'on puisse vraiment voter nos intérêts.
D'accord. Monsieur professeur Moulumba, vous voulez dire un mot rapidement?
Oui. Le programme de Miss Harris, Monsieur Trump, est affiché sur leur website. Nous ne devons pas nous fier à ce que la presse dit, nous devons aussi fouiller, essayer de lire, voir ce qui se passe. Trump a une base à laquelle il parle. Et quand vous lisez les 20 points qui sont sur son website, il parle à un groupe bien spécifique des Américains qui ont des intérêts qui ne sont pas nos intérêts à nous.
D'accord, mais est-ce que Calvin Drack, vous comprenez quand même cet argument? Sous Trump, beaucoup pensent qu'il y avait moins de guerre. C'est un argument que vous comprenez, on l'entend aussi ici.
Ah, je ne comprends pas. Parce que si on réexamine du vrai le mandat de Trump, il y avait des guerres maintenant, mais il y avait le coronavirus, le COVID-19. Alors, si on peut culpabiliser Biden pour ce qui se passe au Moyen-Orient, alors Trump, il est coupable pour le coronavirus. Et autre chose, le taux de chômage pour la communauté noire, c'était un record, c'était très, très bon pendant Trump, mais c'est mieux dans l'époque de Biden. Alors il faut réexaminer les faits.
D'accord. Alors avant d'aller à New York, j'aimerais quand même quelqu'un ici qui puisse défendre Donald Trump. En tout cas, donner la perspective, l'autre perspective, j'ai l'impression que... Oui, allez-y, monsieur.
Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis Fleury Lambert. Je suis opérateur économique dans la région du DMV. Je suis un supporteur et un fervent supporteur de Donald Trump. Donald Trump a un mandat qu'il peut présenter aux Africains, aux Américains, pour dire voilà ce que j'ai fait. Quand il est arrivé au pouvoir, on a tout dit. Il va déclencher la Troisième Guerre mondiale, il va faire ceci, il va faire cela. Il n'a rien fait de cela, il nous a donné une économie parfaite. Nous avons une candidate qui est vice-présidente actuellement, mais qui nous dit exactement ce qu'elle fera si elle devient présidente, alors que ça fait 3 ans et demi. Qu'elle est vice-présidente et qu'elle ne peut, qu'elle ne peut absolument rien faire. Mais ceci dit, je veux interpeller les Africains à apprendre à voter pour leurs intérêts, comme disait justement l'ambassadeur, parce que chez nous, nous votons plus par rapport à nos ethnies. Nous transportons ça en Occident ici pour voter la race. Nous avons retrouvé une communauté africaine qui sont les Noirs américains ici, des gens avec qui nous sommes différents à pratiquement tous les points sur le plan social, sur le plan comportemental. Mais malheureusement, nous votons exactement comme eux, à pratiquement 80%. La communauté africaine doit se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut être aussi différent des gens, mais voter comme eux. Il y a quelque chose qui ne va pas, et nous devons arrêter de pleurnicher en tant que les Africains et faire ce qui est bien.
Alors, moi, j'aimerais bien que vous puissiez, l'ambassadeur, répondre sur cette question.
Avec lui, je vais couper la poire en deux parce que, évidemment, une partie de ce qu'il dit est vrai, mais tout le reste, je ne crois pas que ce soit évident. Dans le sens, quand on parle de Trump et quand on dit que Trump a une économie parfaite, on était dans une économie, tout au moins, un contexte léthargique à cause de la COVID. Ça, c'est important, mais aussi au niveau de la diaspora. Et c'est ça le problème essentiel. Moi, je crois qu'il a ramené un problème qui a toujours été un frein à l'évolution de nous, les Africains, ici. Le fait qu'on a une dichotomie entre les Américains noirs et nous, les Africains. Parce que
c'est un faux débat pour vous.
C'est même un débat très dangereux, de mon point de vue. Parce que si, déjà, on a beaucoup plus qui nous met ensemble que qui nous dépouille. Donc si c'est la politique qui devrait nous diviser, on a encore du pain sur la planche, parce que ce qui va se passer, essentiellement, quand vous écoutez la rhétorique de Trump, est-ce que cette rhétorique, elle est inclusive pour vous? même si vous avez une différence. Parce que, de mon point de vue, il est important que, oui, qu'on vote nos intérêts, mais nos intérêts, au départ, c'est la peau. Il faut qu'on se le dise clairement. Nos intérêts, c'est la peau.
J'aimerais bien avoir la perspective de Calvin Dall, qui avait commencé à aborder cette question, qui connaît un peu les deux mondes avant qu'on aille à New York rapidement.
Oui, oui, je suis noir américain, ma famille est ici depuis des générations, ça se voit dans mon accent de Caroline du Nord, mais je sais quand Donald Trump parle, quand il a parlé des émigrés d'Haïti qui mangeaient les animaux domestiques, ça touche moi, parce que la distinction dans les politiques de Trump, il n'y a pas de distinction de Haïti, de North Carolina, de Mali, de l'Afrique, et les politiques qu'il pousse. Il va faire la distinction entre ces immigrés et ces autres. J'ai lu une étude. Dans ses discours, il a attaqué deux nationalités le plus souvent. C'est du Venezuela et c'est des Congolais. Et je sais que s'il attaque les Congolais, qui va être le prochain? Et je crois que ça va être New York.
D'accord. Alors, on va aller maintenant à New York, la Grande Pomme. Est-ce que nous avons un intervenant ou une intervenante sur New York?
Oui, je peux commencer. Mon nom c'est Abdraman Diallo. Moi, je veux dire que la communauté africaine, je crois, elle est subdivisée dans des différents groupes. En parlant, par exemple, en faisant des campagnes actuellement pour la candidate Harris, et vous rencontrez des Africains qui vous posent des questions que les intervenants ont déjà énumérées, par exemple la guerre. Et ils disent que pendant le mandat de Biden, il y a eu beaucoup de guerres. Il y a eu beaucoup de coups d'État, surtout en Ouest-Afrique. Nous connaissons le Mali, la Guinée, le Burkina, le Niger, Tchad, qui a eu des coups d'État et qui se continuent jusqu'à présent sous l'ère au Biden. Ils vous disent que si c'était Trump, ces trucs n'auront pas arrivé. Et puis ils disent que l'économie était bonne pendant Trump.
Quel est le lien entre l'administration américaine et les coups d'État? Vous, quelle est votre perspective, votre point de vue?
Vous savez, il y a un organe qu'on appelle AFCON qui est là, que beaucoup de ces militaires qui ont fait ces coups d'État dans les pays que je viens de citer, c'est des militaires qui ont été formés par les Américains. Et donc, il y a cela, il y a ce lien qui est là. Et je continue le deuxième point, surtout c'est l'économie. Vous savez aussi, la communauté africaine, la diaspora africaine est divisée. Il y a celles qui ont des nationalités, qui veulent voter, souvent qui regardent l'économie. Et puis il y a une très forte autre africaine qui sont là, qui ont des green cards ou qui sont en process de régularisation. Donc eux qui automatiquement supportent les démocrates. En tant que démocrate, je comprends. Mais comme l'autre dit, il faut voir l'intérêt des Africains, l'intérêt de la diaspora, qui peut ne pas être forcément lié à l'intérêt d'autres pays comme les Africains américains que l'autre a parlé.
D'accord. Alors, nous allons peut-être demander à M. Moulumba d'intervenir sur cet aspect.
Oui. Alors, l'aspect économique. À ce moment bien précis, il y a un traité commercial sur la table des États-Unis qu'on appelle AGOA, African Growth Opportunity Act. Alors, dans ce traité-là, il y a 3 000 à 4 000 produits africains qui entrent en Amérique sans tarif, c'est-à-dire sans payer les taxes. Mais si vous allez sur le programme de Trump, il y a le point, je pense, 4 ou 5, qui dit « Stop outsourcing ». Cela signifie que tous ces produits venant de l'Afrique, il n'a pas intérêt à les voir entrer. Mais entre-temps, ça crée des chaînes d'emploi, de production en Éthiopie, au Kenya et dans beaucoup de pays. En ce moment-là, est-ce que c'est l'intérêt africain lorsque vous avez un programme qui dit il n'a pas d'intérêt pour faire entrer des produits de ce genre-là que supporte l'Afrique? Donc nous devons bien lire le programme et l'analyser. Donc Trump ou même Harris, je dois être ouvert, ce n'est pas parce qu'on dit que ce programme va être ceci, qui a l'intérêt des Africains dedans. Donc il faut aller au-delà de la ligne et lire et comprendre.
Monsieur Omar, en termes d'intérêt, est-ce que la diaspora vraiment profite des opportunités justement pour investir? On a beaucoup parlé d'économie. Est-ce que la diaspora profite des outils qui existent?
Bon, je ne crois pas que nous en profitons, mais pour revenir sur le thème d'intérêt, je crois qu'on est en train de s'éloigner. Est-ce que l'intérêt, notre intérêt, nous, diaspora, nous vivons ici, nous devons créer les conditions pour que nous puissions vivre mieux. Parce que quand on, c'est comme si, quand j'entends mais, et tout le monde parler, c'est comme si on a un pied en Afrique et un pied ici. On ne bouge pas. Qu'est-ce que moi j'aurais suggéré? Effectivement, lire le programme de tous ces gens-là, voir ce qui peut être conducif à un cadre meilleur pour nous ou nos enfants. Vous voyez, donc quand on le regarde sur ce plan-là, moi je crois que quand on parle de guerre, la guerre à les démocrates, les républicains, ils ne contrôlent pas trop les éléments inducifs pour la guerre, parce qu'il y a le complexe militaro-économique qui est derrière tout cela. Donc la question devient, si nous, en tant que citoyens américains, nous tenons bon avec nos députés, je parle des congressmen, nos sénateurs, et nous les poussons à faire la même chose, je ne crois pas que ce, l'exécutif seul pourrait nous amener à des guerres.
D'accord. Alors, M. Calvin Dark, peut-être, donnez-moi une minute. Ouais. Vous avez quand même travaillé un peu sur le MCA, la place de la diaspora dans l'investissement et même dans l'exécution de ces projets, des importants projets américains, c'est à quel niveau selon vous?
Je crois que pour être honnête, il n'y a pas, pour moi, des espoirs chez les démocrates ou les républicains pour les programmes comme il faut. Mais il faut voir les priorités. Parce que je sais que pour les démocrates, ils vont essayer de soutenir ces programmes. Mais je crois que ce n'est pas le cas dans l'autre chose. Je vais citer un exemple. Pendant le mandat de Trump, j'ai travaillé avec un groupe qui voulait accroître les étudiants noirs, qui voulaient étudier à l'étranger. Et j'ai demandé à un speaker du département d'État. Elle a dit, oui, je veux encourager les étudiants. Mais elle a dû refuser l'offre parce que c'était contre l'executive order de Trump pour injecter race dans le outreach du département d'État. Et ce n'est pas comme ça qu'il va changer. Est-ce que Kamala Harris va vraiment soutenir les programmes en Afrique? J'espère, mais je ne doute pas. Mais je sais que ce n'est pas une priorité pour les républicains.
Nous avons un intervenant qui va se présenter, même si je le connais. Allez-y, présentez-vous pour nos téléspectateurs.
Okay. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Nyaka Lagoké. Je suis de Côte d'Ivoire et j'enseigne à Lincoln University. J'enseigne l'histoire et les études panafricaines. Tous ceux qui me connaissent savent que je profite de toute opportunité pour avancer la cause du panafricanisme. Aujourd'hui en Afrique, il y a une conscience grandissante pour les questions de souveraineté économique et de liberté. Que ce soit dans la rue, que ce soit au niveau des États, en Afrique, il y a un certain ajustement pour demander la réforme des institutions internationales, pour la justice économique. Et donc, il y a eu, par exemple, la question de la réparation qui était à l'ordre du jour de la conférence organisée par le Ghana en novembre 2023, j'y étais, et dans le cadre de l'organisation du 9e congrès panafricain qui est piloté par le Togo. Avec le soutien de l'Union africaine, il y a eu 6 pré-congrès et le dernier a eu lieu au Brésil en août 2024 et c'était encore au sujet de la réparation du panafricanisme et de la mémoire. Est-ce que vous pensez que ces questions ont été à l'ordre du jour dans les discours de campagne des candidats? Si oui, comment est-ce que cela a été présenté? Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que représentant de cette diaspora, mais qui entend les voix qui viennent de l'Afrique profonde pour que ces données soient prises en compte par le leadership politique américain? Merci.
Merci beaucoup, Nyaka. Alors, je vais donner la parole à tout le monde ici. Je vais commencer par vous, Calvin. La question de réparation, assez controversée, mais qui ne date pas d'aujourd'hui.
Voici le choix. Kamala Harris, qui a soutenu la politique dans le passé, mais évidemment, elle ne promouvoit pas l'idée maintenant. Et de l'autre côté, hier soir, dans mon état de Caroline du Nord, Donald Trump a donné un discours près de la base militaire Fort Liberty. Il a dit non, c'est Fort Bragg. C'était nommé par un soldat dans la Confederate Army pour promouvoir l'esclavage. Et il a dit, quand je suis réélu, je vais changer le nom au Fort Bragg. Alors, s'il parle de donner les soldats de la Confederacy, je ne doute pas qu'il va entendre un argument pour les reparations. Et je crois que ça, c'est vraiment le choix devant nous.
D'accord. M. Moulumba? Bon, je crois que le prof a soulevé un élément important. Est-ce que nous avons une diaspora qui parle d'une seule voix et au nom de des intérêts panafricains? À ce moment bien précis, je peux dire que nous n'avons pas cette configuration-là. Mais est-ce qu'on peut la créer? Oui. Il y a trois grands groupes qui influencent les élections aux États-Unis sur le plan de regroupements régionaux. Vous trouvez le groupe nigérien, qui est assez grand, le groupe éthiopien, puis vous avez le groupe somalien. Et le groupe somalien a produit Ilhan Omar, disons la congressman de Minnesota, n'est-ce pas? Alors maintenant, si ces groupes continuent à fonctionner en isolé, n'est-ce pas, trois comme ça, donc il faut qu'on se fusionne et qu'on forme une voix réellement panafricaine. Mais on ne peut pas arrêter là-bas. Est-ce que nous avons des moyens pour financer cette voix panafricaine? Nous avons des moyens. Si vous regardez les chiffres de l'argent que nous voyons en Afrique, ce qui va vers l'Afrique subsaharienne, c'est 53 milliards de dollars. L'Afrique du Nord, c'est à peu près 30. Ça fait 88 milliards de dollars. Mais pourquoi ne pas prendre 2, 3, 4% de cet argent qu'on envoie en Afrique pour former une diaspora qui soit vraiment une force d'influence? Parce que vous n'allez pas être force d'influence financé par quelqu'un d'autre. Vous devez vous financer vous-même. Nous avons des moyens, mais c'est question de savoir les rediriger vers ce que nous voulons réaliser comme objectif stratégique. Alors, à ce moment bien précis, sans vous interrompre, nous avons besoin de l'intelligence de tout le monde pour arriver à un point dit, voilà, maintenant nous avons une configuration qui est une véritable diaspora panafricaine.
New York, vous avez une question peut-être ou une contribution rapidement avant qu'on aille à la pause?
Ben, moi, je suis Yves Dikoumé, agent immobilier à New York, et j'ai écouté attentivement toutes les interventions. Si j'ai bien compris, la question était de savoir quel impact la diaspora africaine basée aux États-Unis pourrait avoir sur l'élection américaine. Bon, pour moi, de mon point de vue, il faut savoir où se situe cette diaspora-là. Vous avez bien décrit qu'elle était divisée, éparse et tout. Mais pour ce qui me concerne, je vais plutôt parler de mon point de vue du fait que je réside à New York. Donc mes intérêts directs sont liés à New York, et que si les Africains attendent que l'élection américaine ait un impact sur leur vie, directement, l'Afrique ne compte pas beaucoup, sauf à part un pourvoyeur de matières premières ou de sites de base militaire. Pour ce qui concerne le côté local ici, puisque cela nous concerne effectivement et où on peut avoir un impact, c'est au niveau de l'élection. Mais moi, je me situe au-delà des personnes. Moi, je regarde plutôt des programmes. Donc, je ne vais pas être partisan d'un ou de l'autre. Je vais plutôt être partisan de ce qui me concerne directement, de mes intérêts. Et mes intérêts, je vais les regarder du côté du point de vue économique. Donc, si je regarde ce que l'une des parties ou des deux parties propose, je veux dire concrètement, une partie propose par exemple d'augmenter l'impôt sur les profits des entreprises, une autre partie propose de les diminuer. Moi, je regarde ça. Une partie en 2019, l'essence par exemple était à 2 dollars le gallon, et aujourd'hui l'essence est à 3,59 le gallon. Moi, ça me concerne, je regarde ça. Donc, mon choix, si je devais faire un choix, ce sera plutôt pour un intérêt purement économique.
Merci beaucoup, New York. Alors, nous arrivons au terme de la première partie de cette discussion sur la diaspora africaine aux États-Unis et la présidentielle américaine. On se donne rendez-vous dans la deuxième partie pour évoquer l'un des thèmes les plus chauds de cette campagne, l'immigration. À tout de suite.